おかしいおかしい。
Et sans plus tarder, je vous invite à suivre l'émission de l'Obanco Congolais avec le Sanda à la présentation.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce magazine d'actualité politique Dialogue Banco Congolais. Nous sommes le lundi 20 octobre 2008. La RDC rate l'organisation du prochain sommet de la francophonie au profit de l'île de Madagascar. C'est le thème que nous abordons dans l'émission de ce soir. Et nous nous posons deux questions principales. Qu'est-ce qui a milité au choix du Madagascar à la place de la RDC? Et que gagne la République démocratique du Congo de son appartenance à la francophonie? En effet, la 12e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage s'est clôturée hier dimanche à Québec, au Canada. Une résolution sur la promotion de la langue française est sortie de ce sommet, sans oublier une déclaration dite de Québec concernant la RDC. Cette conférence, au travers de la déclaration de Québec, s'engage à œuvrer à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs, en particulier en RDC. Cette conférence, les chefs d'État et de gouvernement s'engagent aussi à appuyer la MONUS. Elle demande aussi à tous les groupes armés illégaux de s'inscrire dans le processus de paix de Goma et de Nairobi et à participer au suivi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Nous abordons ce thème avec trois invités, Jean-Claude Mokeni, à Kanyingamo, sénateur PPRD, président de la commission des relations extérieures du Sénat, Gérard Ntumba, secrétaire national du MLC chargé des représentations extérieures et ancien ministre du plan pendant la transition, et depuis la province du Bandundu, le professeur Labana Lassai, qui enseigne les relations internationales à l'université de Kinshasa. Il intervient dans cette émission en tant qu'analyste politique.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le 12e sommet de la francophonie s'est clôturé hier dimanche à Québec au Canada. Le prochain se tiendra dans l'île de Madagascar en 2010. La RDC qui s'est disputée l'organisation du prochain sommet avec le Madagascar ne pourra accueillir ses assises qu'en 2012. Pour le porte-parole du ministère congolais des Affaires étrangères, le choix porté sur la RD Congo en 2012 est une victoire vu la multitude des candidatures. Claude Kamanga Mutonda a été joint depuis Québec au Canada par notre consoeur Lévin Bunga.
Le sommet de 2012 sera organisé à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'une des plus grandes résolutions que nous pouvons considérer comme un acquis en faveur de la République démocratique.
Qu'est-ce qui a motivé le choix de Madagascar selon vous?
Bon, il faut quand même toujours se mettre en tête que dans la tradition de ce genre de rencontre, en définitive, il apparaît que un choix peut être porté sur un pays ou un autre. Il y avait plus de deux candidats en lice, le Madagascar, la République démocratique du Congo et même les pays du sud-est asiatique. Ce qu'il faut retenir et ce qui est peut-être le plus important, c'est que un grand travail a été fait, une mobilisation sans faille s'est révélée autour de la République démocratique du Congo et de la solidité du fédéral qui a été déployé ici à Québec. Nous considérons que c'est une très grande victoire.
Voilà, merci beaucoup à Claude Kamanga Mutonda et notre consoeur Lévin Bunga qui l'a interviewé. Je reviens dans ce studio avec vous, Monsieur Gérard Ntumba. Vous êtes secrétaire national du MLC, chargé des représentations extérieures. Vous êtes aussi ancien ministre du plan pendant la transition. Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, votre réaction par rapport à ce que la presse a qualifié de camouflet de la RDC face à sa candidature qui n'a pas été retenue pour l'organisation du prochain sommet de la francophonie.
Merci beaucoup. Je ne vous surprendrai pas en disant que je partage tout à fait l'analyse de la presse parce que je le ressens aussi comme ça. C'est un camouflet pour notre pays, qui est le deuxième pays francophone au monde du point de vue de l'importance de sa population. C'est un événement qui était attendu ici chez nous. On en avait fait large écho dans les magazines de presse et aussi bien dans les radios que vous animez et tout ça. Et en tant que Congolais patriote, en suivant cette nouvelle ce matin au réveil, j'étais terriblement choqué et déçu.
Mais pas surpris, si je ne vous ai pas bien compris.
Surpris, peut-être pas, parce que on aura l'occasion de le développer un peu plus tard, parce que j'ai la nette impression que il n'y a pas suffisamment de lobbying qui a été fait autour de la candidature de la RDC. Les autorités du pays, notamment le ministre des Affaires étrangères et les autres membres du gouvernement, devaient entreprendre un lobbying agressif parce que c'est la deuxième fois que la RDC rate d'organiser cette rencontre internationale. La première fois, au début des... c'était, je crois, en l'an 90, je crois, sous Mobutu, quand il y a eu les événements du campus de Lubumbashi. Il était déjà prévu à cette époque-là que le sommet de la francophonie se tienne à Kinshasa. Et cette année-là, comme le pays avait été mis au banc de la communauté internationale suite aux événements qui se sont déroulés au campus de Lubumbashi, on avait raté l'occasion d'organiser cette rencontre.
Merci beaucoup, M. Gérard Ntumba. On vous garde encore dans cette émission. Donc, je rappelle à nos auditeurs que nous avons également en ligne M. Jean-Claude, l'honorable Jean-Claude Moukeni. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes sénateur PPRD et président de la commission des relations extérieures du Sénat. Votre réaction par rapport à cette candidature qui n'a pas pu réussir?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir convié à cette émission que j'apprécie personnellement pour la qualité des thèmes choisis.
Merci.
En ce qui concerne la candidature de notre pays pour l'organisation du 14e sommet
du 13e
de la francophonie. Non, c'est le 14e, puisque le 13e sera organisé par le Madagascar, donc le 14e sera organisé par nous.
Bien sûr, mais réagissez d'abord par rapport à l'échec concernant l'organisation par la RDC du 13e sommet justement de la francophonie.
Mais je pense qu'il y a là effectivement un problème d'interprétation. Moi, lorsque je trouve que c'est une victoire, une demi-victoire, vu que nous avons tout simplement obtenu de la part de tous les pairs d'organiser ce sommet en 2012, et que on a laissé, enfin, on n'a pas laissé, mais la lutte était acharnée, et que le Madagascar a su gagner la manche cette fois-ci pour 2010. Mais sachant que la francophonie, nous sommes tous des pays frères et nous n'allons pas commencer à nous entretuer parce qu'il y a un des pays qui n'a pas pu organiser le sommet à l'époque où il a voulu. Je pense que ce n'est que partie remise, c'est reculer pour bien sauter pour la RDC, et étant donné que nous sommes un pays en pleine reconstruction, et que nous devons avoir des infrastructures qui nous permettront de bien organiser ce sommet. Je pense que là, c'est aussi un clin d'œil favorable à ce qui se passera. En ce qui me concerne, je trouve que c'est une victoire quand même, puisque nous avons obtenu déjà l'organisation de ce sommet Ikitouf en 2012.
Pensez-vous que Madagascar a plus d'infrastructures que la RDC pour pouvoir organiser ce prochain sommet de la francophonie?
Écoutez, le Madagascar est un pays touristique, donc il a plus d'infrastructures hôtelières pour commencer, pour accueillir tous les conférenciers. Il a beaucoup plus d'infrastructures au niveau des salles de séminaire pour pouvoir faire face à une telle organisation. Il faut voir aussi le timing. C'est dans 2 ans l'organisation de ce sommet. Et je pense que ça a joué en sa faveur, et puis le fait qu'ils ont quand même, le président malgache a quand même menacé de pouvoir se retirer de l'organisation si sa candidature n'avait pas été retenue. Donc, comme je le disais, la francophonie, c'est d'abord des pays frères, amis, qui parlent tous la langue française, et je pense qu'on n'a pas la même conception des choses que les anglo-saxons qui ont une autre façon de penser, de voir les choses.
Merci beaucoup.
important.
Merci beaucoup. On vous garde encore dans cette émission. S'il vous plaît, c'est Jean-Claude Mokeni, on vous garde encore dans cette émission. Mais nous avons également en ligne, depuis la province du Bandundu, le professeur Laban Alassai. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur Jean-Marie.
Vous enseignez les relations internationales à l'Université de Kinshasa, mais vous intervenez dans cette émission en tant qu'analyste politique. Vous avez suivi nos deux autres interlocuteurs. Le sénateur Mokeni pense que c'est une demi-victoire, car la RDC va finalement organiser un sommet de la francophonie en 2012, tandis que Gérard Ntumba pense qu'il est d'abord choqué, mais pas du tout surpris, à cause, d'après lui, du manque de lobbying qu'a exercé la République démocratique du Congo.
Ok, merci pour la question, pour cette invitation. Mais je voudrais dire d'abord, dans le cadre des organisations internationales comme la francophonie, l'organisation des sommets, il y a des critères qu'on peut utiliser. Dans le cas en espèce ici, au lieu d'utiliser les critères par rotation des États membres pour l'organisation de ces sommets, mais on a utilisé le critère de candidature des États membres. Alors, il appartient à chaque État membre qui estime prêt pour l'accueil de ce sommet dans son pays et porte sa candidature. Dans le cas échéant, nous avions deux États. Mais il appartenait à ces deux États, comme exige le pratique des relations internationales dans l'organisation de ces organisations, chaque État doit d'abord mobiliser les États de la région, d'abord de la sous-région, de la région, et voir aussi des partenaires des autres continents pour essayer de les sensibiliser au profit de la candidature de cet État-là. Mais qu'est-ce que nous constatons dans le cas de notre pays? Nous avons mené des actions diplomatiques pour sensibiliser les États de la sous-région, comme vous avez entendu le président de la République congolaise d'en face, a intervenu en faveur de notre pays. Nous avons entendu aussi que le président gabonais a pris part active, n'est-ce pas, pour soutenir la candidature de notre pays. Mais cela ne suffisait pas pour que la République démocratique du Congo arrache cette place-là pour organiser le 10e sommet dans notre pays.
Et qu'est-ce qui a manqué?
Oui.
Ce qui a manqué,
c'est l'effort diplomatique, le rayonnement diplomatique de notre pays. Il y a plusieurs facteurs qui pèsent sur cela. Si nous prenons d'abord la représentation de la délégation congolaise, mais à ce sommet le plus important, où nous discutons à organiser le sommet dans notre pays, le président de la République était gardé compte tenu de son calendrier intérieur au pays. Il fallait qu'à la place du président de la République, une autre personnalité de notre pays représente, parce que cette personnalité doit entrer en contact avec les autres chefs d'État pour essayer de mener la diplomatie de couloir pour défendre, n'est-ce pas, la candidature congolaise.
Vous parlez du premier ministre qui n'a pas encore été investi.
Non, si le premier ministre était investi, il pourrait partir.
Si ce n'est pas le premier ministre, mais l'un des présidents de deux chambres du Parlement, par exemple.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Le président de l'Assemblée ou du Sénat pourrait participer. Et celui-là, sur la préséance, pouvait entrer en contact direct avec le président. Mais si le président de la République était là, mais il pouvait entrer directement en contact avec ses homologues.
Merci.
Pour expliquer le bien fondé de la candidature de notre pays. Mais malheureusement, le calendrier interne l'a retenu au pays.
Ça, c'est vous qui le dites, hein.
Oui, je l'ai dit, il était retenu. Vous savez que notre pays, pour le moment, a beaucoup de problèmes à résoudre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Laban Alassai. Je reviens à vous, Gérard Ntumba. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du MLC, donc de l'opposition. Vous êtes chargé de représentation extérieure et vous êtes également ancien ministre du Plan pendant la transition. Est-ce que finalement l'absence du chef de l'État congolais à ce sommet de la francophonie n'a pas agi en notre défaveur?
Si, tout à fait, parce qu'il est... Il ne fallait pas rêver, hein, parce que dans de telles organisations, il faut être représenté au sommet. Et quand on attend un tel événement, je suis désolé, mais le président de la République, il aménage son calendrier, hein, il va dans ce genre de rencontre, parce que, justement, comme je le disais au départ, il y a tout un lobbying qui devait être fait. Mais avant que le président de la République ne se présente dans ce genre de sommet, il y a tout un travail de fond qui devait être entrepris au préalable.
Lequel?
Au niveau du ministre des Affaires étrangères, il devait prendre langue avec les pays de la région, comme le professeur le disait. C'est ce que nous, à l'opposition, nous disons qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ce gouvernement. On sent l'inexpertise et l'amateurisme même dans beaucoup de choses. Je crois que vous avez suivi comme nous ce matin, quand on demande au président malgache si... le ministre congolais des Affaires étrangères l'a rencontré, on dit non, le ministre des Affaires étrangères n'a même pas dans ce genre de choses, vous négociez, vous avez un rival, vous allez le voir, vous le travaillez au corps, vous faites valoir vos atouts. Hein.
Est-ce que ça pouvait amener quelque chose si notre ministre des Affaires étrangères rencontrait
de toutes les façons, ça c'est le fruit de l'improvisation qu'on vit dans ce pays. Hein. Ça, c'est vraiment le fruit de l'improvisation. Moi, je dis clairement que ce dossier n'a jamais été préparé. On s'est présenté précipitamment dans ce sommet. Je parie même pas avec un cahier de charges. Je me demande même si nos autorités avaient pris connaissance des termes de référence pour organiser ce genre de rencontre. J'estime qu'on élabore des termes de référence sur lesquels il faut travailler et sur lesquels le pays devait s'appuyer pour présenter sa candidature. Cette improvisation, ce n'est pas que dans la diplomatie. On peut extrapoler. Dans le sport, c'est la même chose. Hein. On ne prépare rien. On ne prépare rien et puis après, on attend des résultats. Attends, ne rêvez pas.
Hein. Voilà, merci. Monsieur Jean-Claude Moukeni, vous êtes sénateur PPRD, c'est-à-dire de la majorité présidentielle. Vous êtes en plus le président de la commission des relations extérieures du Sénat. Je suppose que vous êtes au courant de la préparation de ce sommet. Pourquoi le chef de l'État, d'après vous, n'était pas présent à ce sommet?
Monsieur Jean-Marie, bien entendu que toute la République est au courant que la RDC avait proposé sa candidature et que on était bien parti pour organiser ce sommet de la francophonie, mais comme l'a souligné le professeur Laban Alassaï, que je salue au passage, le président de la République a été retenu au pays, vu son agenda hyper chargé. Vous savez bien que nous avons des problèmes à l'Est pour le moment, nous avons un gouvernement en formation, bon, tout ça ce sont des éléments très importants sur le politique interne, qui a fait que le président a préféré, le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabangé, a préféré s'occuper des affaires internes et envoyer son ministre des Affaires étrangères qui était déjà très actif au niveau régional, puisque, pour rappel, nous avons la présidente de la CEAC, ce qui est un atout par rapport au Madagascar. Donc on a pu travailler tous les pays membres de la CEAC. La preuve en est que même le président Sassou Nguesso a volé à notre secours en appuyant la candidature de la RDC en disant au cas où il y aurait des réticences au niveau de sécuritaire, ben, le Congo-Brazza pourrait éventuellement, dans le cas d'espèce, prendre voler au secours de la RDC. Donc je pense que le problème de l'improvisation, c'est un slogan de l'opposition, on a l'habitude. Le gouvernement navigue à vue, on ne fait des affaires. Bon, malheureusement et heureusement que le collègue a reconnu lui-même qu'à l'époque du président Mobutu, le sommet de la francophonie avait aussi failli avoir lieu à Lubumbashi, disons au Zaïre, mais n'a pas eu lieu à cause des événements de Lubumbashi. Mais rien, d'après. Ici, on a quand même pu décrocher l'organisation qui est sommée en 2012. Alors, je pense qu'on ne peut pas...
C'est une demi-victoire hein, pour vous, mais monsieur le sénateur, s'il vous plaît, monsieur le sénateur Jean-Claude Mokeni, mais si je comptabilise très bien, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, n'a pas participé au sommet de l'Union africaine, à l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet de la francophonie. Ça fait quand même trois grands sommets. Est-ce que c'est un choix politique ou vous pensez que c'est suite à ce qui se passe sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo ou en raison de son agenda chargé?
Je pense tout d'abord qu'il faut recadrer votre intervention, puisque le président de la République agit en fonction déjà de son calendrier et puis en fonction des urgences internes. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes un pays post-conflit.
Mais c'est quand même, excusez-moi, monsieur Mokeni, mais c'est quand même trois grands sommets dans lesquels on peut toujours parler de la situation sécuritaire à l'est du pays ou chercher des solutions.
Vous avez entendu quasiment tous les intervenants ce soir qui ont dit qu'il y a une démocratie de couloir, il y a une diplomatie de couloir, il y a des lobbies, donc il ne faut pas être explicitement présent et physiquement présent à un sommet pour pouvoir faire entendre sa voix. Il y a toute une série de préalables qui font que ces choses-là se négocient, se discutent bien avant les sommets et que donc au sommet, bon, bien sûr, c'est important puisque alors à ce moment-là, il y a un discours qui scelle en fait les partenariats et les discussions qui ont eu lieu entre les dans les couloirs, mais ceci n'enlève en rien la substance de la négociation et de l'effort diplomatique que mène notre gouvernement pour pouvoir justement obtenir la condamnation de la part de toute la communauté internationale et surtout de nos voisins directs de ce qui se passe à l'Est. Parce que je me souviens bien, lorsque on a attaqué le Tchad, la RDC a convoqué un sommet d'urgence à Kinshasa, et étant président de la CEAC, nous avons condamné le fait qu'on ne peut plus venir renverser par les armes un gouvernement et un président qui est élu démocratiquement.
Merci.
Alors que chez nous à côté, on entend des déclarations de guerre de la part des groupes rebelles,
notamment
CNDP, mais nous n'avons pas de condamnation. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je déplore. Le Congo est toujours le premier à faire des déclarations dans ce sens, à condamner les autres États pour le respect de la démocratie, mais il faudrait que les autres le fassent aussi et le fassent en temps.
Merci beaucoup. Justement, à propos des retombées de la francophonie, de l'appartenance de la francophonie, de la RDC à la francophonie, nous allons en parler justement dans la deuxième partie de cette émission. La RDC rate l'organisation du prochain sommet de la francophonie au profit de Madagascar. C'est le thème principal de l'émission de ce soir. Que gagne la République démocratique du Congo de son appartenance à la francophonie? C'est la deuxième partie de l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Mais avant de la poursuivre, suivez d'abord le rappel de nos contacts et puis nous reviendrons dans ce studio.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La RDC est un pays francophone, mais de plus en plus d'écoles organisent l'apprentissage de l'anglais dès le niveau de la maternelle en RDC. Le promoteur des écoles cartésien et Carnot, ici à Kinshasa, M. Steve Mbikai, parle des enjeux de cette méthode éducative. Steve Mbikai a été joint au téléphone par notre consoeur, par notre confrère Guy Maté, excusez-moi.
L'anglais, c'est la langue du monde aujourd'hui quand on va en Asie, en Amérique. Voilà pourquoi nous avons préféré mettre un grand accent sur la langue anglaise. Les enjeux, c'est d'abord que les enfants que nous formons sont les soins du monde. Et puis, ils auront à faire facilement leurs recherches scientifiques, étant donné que beaucoup de manuels sont en anglais. J'adore ça aussi. Ils pourront ne pas complexer quand ils vont à l'extérieur. Vous savez, la plupart des affaires sont faites avec les pays anglophones. Il y a déjà beaucoup de Congolais qui vont en Chine, qui vont à Dubaï et autres, grand difficulté de communication. Ben, en fait, l'anglais, c'est langue des affaires excellente. Quand on parle anglais, je crois que c'est une facilité de communiquer facilement avec des partenaires étrangers dans certaines affaires. On doit aussi garder la langue française, mais on doit introduire ou généraliser aussi l'apprentissage de la langue anglaise pour faire notre pays un pays bilingue.
Voilà, donc nous allons rentrer au Bandundu, dont intervient le professeur Labana Lassai. J'espère que vous êtes toujours en ligne, monsieur le professeur.
Oui, je suis en ligne.
En temps de la dernière intervention du sénateur Jean-Claude Mokeni, il lui semble bien que la RDC ne profite pas assez de son appartenance à la francophonie ou à certaines autres organisations régionales ou sous-régionales. Est-ce que vous êtes du même avis que lui?
Non, mais l'appartenance à une organisation internationale ne veut pas dire que nous devons bénéficier de tout. Il est important de signaler ici que lorsqu'on est membre d'une organisation internationale, vous devez participer au fonctionnement de cette organisation par le paiement de vos contributions.
C'est que la RDC, hein.
Que l'organisation contribue aussi à aider le pays. Mais il faut remarquer ici que c'est depuis longtemps, depuis la fin de la première édition du gouvernement de Mobutu, du régime de Mobutu, notre pays s'est excédé dans le non-paiement des contributions au sein des organisations internationales.
Du moins au niveau de la francophonie, la RDC a puré toutes ses dettes, hein, au niveau de la francophonie.
Oui, justement, je parle de manière générale parce que ça, c'est un indicateur important pour qualifier l'État et la contribution, la participation, le poids de l'État au sein d'une organisation internationale. Nous disons qu'au sein de la francophonie, nous bénéficions beaucoup de choses.
De quoi, par exemple?
Dans le cadre de l'éducation. Par exemple, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de financement, dans le cadre de projets que nous avons dans notre pays. Pour pouvoir aller au ministère des Affaires étrangères, la direction qui s'occupe de la francophonie, on va vous démontrer combien de projets la République démocratique du Congo a avec la francophonie dans la formation dans notre pays, dans le cadre du développement des secteurs de l'éducation dans notre pays.
Mais quel est l'impact de tous ces investissements sur les populations congolaises, par exemple celles qui se trouvent dans les fins fonds du pays?
Mais l'impact, vous savez, dans le cadre de la francophonie, vous savez que dans le cadre de la francophonie, nous bénéficions de la formation dans des arrière-pays, n'est-ce pas, dans le cadre des alliances franco-congolaises. Et à partir de ces alliances-là, il y a une contribution, il y a un budget qui vient de la francophonie pour, n'est-ce pas, l'arrière-pays, pour doter, n'est-ce pas, de matériel pour l'apprentissage de la langue française. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes, des adultes qui n'ont pas fait le cycle normal de l'école secondaire. Mais en passant par ce centre-là, ils sont parvenus à maîtriser la langue française, à passer même aux examens d'État. Et il y a d'autres qui sont passés même à l'université.
Professeur,
je crois que c'est une grande contribution, n'est-ce pas,
professeur,
dans le cas de l'apprentissage de la langue française.
Professeur Labana Lassai, mais que dites-vous de la proposition de M. Steve Mbikai qui estime qu'il faudrait institutionnaliser l'enseignement de l'anglais, même dans l'école primaire, tout ça, le généraliser pour permettre aux Congolais d'être mieux outillés, notamment dans leur contact avec l'étranger?
Non, moi je ne suis pas d'accord avec lui, parce que l'institutionnalisation d'une langue, c'est un choix politique. Vous savez, même là en France, aux États-Unis, il y a des écoles qui enseignent des langues des autres États. Mais moi je crois que lorsqu'on enseigne l'anglais dans notre pays, c'est un instrument de travail. Regardez un peu sur le plan scientifique. Tous les ordinateurs ont un langage anglais, n'est-ce pas? Donc nous devons apprendre l'anglais pour utiliser cet outil-là. Cela ne signifie pas si nous donnons des cours d'informatique à nos enfants depuis l'école primaire, ça signifie que nous allons. Cela ne signifie pas, je voulais dire, que nous allons, mettre ça à l'enseignement des Français pour remplacer les Français par l'anglais. Non.
Mais professeur,
savez, moi, par exemple, je parle trois langues. J'ai étudié l'espagnol. J'ai fait ma thèse en espagnol. C'est là profite sur le plan scientifique de lire les ouvrages qui sont publiés dans cette zone-là. J'ai lu les ouvrages qui sont publiés dans la zone anglaise. J'ai lu les ouvrages qui sont publiés dans la zone française. Cela me permet de faire la synthèse.
Oui, professeur, on vous a compris, professeur, mais vous êtes contre l'institutionnalisation de l'enseignement du français couplé à l'anglais. Mais quand on regarde sur nos billets de 500 francs, c'est plutôt écrit en anglais, 500 francs congolais, et puis en swahili. Mais est-ce que ce n'est pas déjà là une tentative d'institutionnalisation de l'anglais dans le sérail étatique?
Ben, il faut qu'il y ait une loi. Il faut que les institutions chargées de faire cela comprennent une loi. Et à ce moment-là, si on nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, fini le français, nous allons prendre l'anglais.
Merci.
Et on va commencer à enseigner l'anglais aux enfants.
Merci. Merci beaucoup. Monsieur, nous avons également dans ce studio Monsieur Gérard Ntumba. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du MSC, c'est-à-dire de l'opposition, chargé de représentation extérieure et ancien ministre du plan pendant la transition. L'actualité, c'est aussi la position prise dernièrement par le Rwanda de institutionnaliser l'enseignement de l'anglais au même titre que le français pour prendre un peu plus de penchant vers ce qui se passe à l'est du pays qui est beaucoup plus anglophone. Est-ce que vous pensez que la RDC pourrait prendre également ce cap?
Non, on ne peut pas systématiquement prendre cette position-là.
Pourquoi?
Personnellement, ce que je sais sur le Rwanda, par exemple, c'est que dans les années passées, sous le régime de Habyarimana et encore un peu au début des années du président Kagame, l'enseignement au Rwanda se faisait essentiellement en Kinyarwanda. Ils ont eu maintenant plus facile, étant donné qu'une grande partie qui est rentrée au pays après l'exil, après l'organisation du FPR venait de l'Ouganda où ils ont évolué pendant longtemps. Donc je comprends bien cette tendance du président Kagame lui-même qui est anglophone, qui n'exerce pas le français, de pouvoir institutionnaliser l'anglais. Par rapport au français, mais bon, ça, je ne peux pas relever les aspects politico-stratégiques de cette position du Rwanda qui nous habitue souvent à ce genre de prise de position. Mais ce serait dangereux pour notre pays de prendre donc cette voie-là. Moi, je crois que le français nous permet. Il faut voir dans l'espace. Il y a trois grandes zones. Je crois que le professeur a effleuré tout à l'heure. Lui-même, il parle espagnol. Donc, moi, je crois qu'il y a trois grandes zones linguistiques. Il y a les hispanophones, il y a les anglophones, et puis il y a quand même les francophones, parce que en termes d'importance en nombre, les francophones, je n'ai plus très bien les chiffres en tête, mais la population mondiale qui parle français est quand même importante. Donc, moi, je crois que ce que un gouvernement responsable devrait faire, et ça va dans le sens de, disons, de la révision même de notre programme scolaire, c'est de renforcer le programme au niveau secondaire, le programme d'anglais, parce que le programme anglais qu'on donne à nos enfants est très élémentaire. Il est très élémentaire. Moi, je crois qu'il faille le renforcer pour permettre aux enfants qui terminent la sixième secondaire d'être suffisamment outillés pour pouvoir s'exprimer et comprendre ne fût-ce que l'essentiel s'ils échangent avec quelqu'un d'autre.
Mais qu'est-ce que la RDC gagne en appartenant à la francophonie? Quand certains analystes disent que quand on compare ce qui se passe au niveau du Commonwealth, c'est quand même pas très fameux, notre appartenance à la francophonie.
Mais je crois que, qu'il appartient aux pays membres, notamment au président et au ministre qui participent aux différents sommets, de pouvoir définir les retombées que les pays membres de cette organisation pourraient bénéficier.
Mais est-ce que vous pensez que la RDC gagne quelque chose en appartenant à cette organisation de la francophonie?
Je peux vous le dire pour être passé quelques temps au gouvernement. Il y a quelques programmes, effectivement, comme le disait le professeur, qui sont financés dans le cadre de la francophonie. Mais encore une fois, je vais relever quelque chose.
Rapidement, s'il vous plaît.
Il faut ici aussi stigmatiser la faiblesse de notre administration, parce que des fois il y a des programmes qui ne sont pas exécutés tout simplement parce que notre administration n'est pas en mesure de déterminer dans quel domaine précis est-ce que il faut diriger ces actions, des programmes, des aides, tout ça. Ce qui fait que essentiellement, ce programme est visible dans les grands centres. Vous allez dans les grands centres, là où il existe des centres culturels, des alliances franco-congolais, vous voyez les retombées de cette francophonie. Mais quand vous allez loin à l'intérieur du pays, je crois que c'est là qu'il y a un travail de fond à faire. Il y a un travail d'analphabétisation qu'il faut entreprendre. C'est là qu'il faut.
Merci. On va aussi accorder la parole à Jean-Claude Mokeni. Vous êtes sénateur, membre du PPRD. Est-ce que vous pensez que retire en termes de dividendes l'appartenance de la RDC à la francophonie, d'après vous?
Ben, écoutez, monsieur Jean-Marie, je pense
c'est
que...
Claude Pianta.
Oui, monsieur Claude Pianta, excusez-moi. Je pense que les deux intervenants ont ramassé un peu toutes les préoccupations. Ben, comme moi, je dis toujours, on ne peut pas refaire le monde, mais je pense que nous devons quand même rappeler quelques résolutions et le fondement de la francophonie. Le fondement de la francophonie a des objectifs prioritaires, c'est l'aide à l'instauration et au développement de la démocratie, prévention de conflits, soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme. C'est de ça qu'il en ressort en prime abord avant de commencer à venir en aide pour justement le côté culturel de la chose. C'est établir une démocratie universelle. C'est ça, les valeurs universelles qui sont fondées sur la reconnaissance du caractère inaliénable de la dignité et de l'égale valeur de tous les êtres humains.
Mais par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays, qu'est-ce que la RDC peut attendre de la francophonie pour justement ramener la paix dans les Kivu? Parce qu'il y a une résolution quand même, il y a une déclaration, dans la déclaration de Québec, ils disent que les pays membres de la francophonie disent qu'ils vont soutenir la MONUC, ils vont œuvrer à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Est-ce que ce n'est pas trop théoriste,
ça? Ben justement, je pense que là on revient un peu dans le vif du sujet, puisque le sommet de la francophonie a été balayé par la candidature de la RDC, mais en fait il y a eu des ateliers, des résolutions sérieuses qui vont nous aider peut-être à comprendre l'importance de cette organisation. Vous venez de le dire, il y a eu une résolution où on a dit qu'il fallait une mise en place plus rigoureuse de la déclaration de Bamako et de Saint-Boniface pour conforter l'action de l'Organisation internationale de la francophonie en matière des alertes précoces, démocratie préventive, la médiation en liaison étroite avec l'ONU et les organisations régionales, renforcer les capacités des États francophones en matière
et puis
de
l'implication aussi des pays francophones dans les missions de maintien de la paix.
Tout à fait, c'est de ça qu'il est question, parce que ils ont peut-être remarqué que la composition des forces étrangères au sein de l'ONU et des autres organisations régionales
dans les pays dits francophones n'est pas suffisamment représentatif.
Merci.
De la francophonie. Il y a
merci.
Plus de anglais. On n'a qu'à voir la Monique chez nous.
Merci
on
beaucoup.
A beaucoup de Pakistanais, des Indiens, des Uruguayens, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de francophones. Nous
s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Nous saluons l'entrée de la porte-parole de nos auditeurs, qui est une poutre. Bonsoir.
Bonsoir, Claude.
J'imagine que vous avez reçu de nombreuses réactions de la part de nos auditeurs et vous en avez sélectionné quelques-unes. Et nous commençons par qui ce soir?
Un fifi de Pouboukan pour ce qui vous. Elle dit ceci, c'est bien qu'on n'ait pas été choisi, car dit-elle, car à son avis, la priorité c'est d'abord la réorganisation du pays parce que celui-ci vit dans la misère et l'insécurité totale. Que les autorités pensent un peu plus au peuple plutôt qu'à pouvoir paraître aux yeux du monde. Argument soutenu également par Leti de Bounia en province orientale et Karda Lukanda de Lubumbashi au Katanga. Mais ces derniers pensent que nos dirigeants doivent donc commencer par mettre fin à la guerre avant de voir autre chose. Quant à Kabao et Sidi Boutembo Nord Kivu, ils demandent aux Congolais de ne pas perdre l'espoir, car même sans la francophonie, la vie continue. Depuis Bukavu Sud Kivu, Pascal remarque que ces derniers temps, la RDC enregistre beaucoup d'échecs dans presque tous les domaines, en sport, tout comme en diplomatie. Cela doit interpeller le gouvernement, conclut-il. Pikiri Saïdi Papidouvira veut savoir ce que devrait gagner la RDC s'il organisait le sommet francophone en 2010. Enfin, Faustin de Kinshasa estime que la ville de Kinshasa est mal propre. C'est honteux d'organiser un tel événement.
Merci beaucoup, Titi Poute. Merci également à nos auditeurs. Professeur Labana Lassaï, que répondez-vous à Fikiri Saïdi, Papi Douvira aussi de Kivu, qui voudrait savoir ce que pourrait gagner la RDC s'il organisait le sommet de la francophonie en 2010?
Mais beaucoup de choses. Le pays allait bénéficier d'abord dans le thème des infrastructures qu'on allait aménager pour accueillir des délégations dans notre pays. Un autre volet, c'est le volet financier. Ceux qui vont venir vont entrer avec leurs devises et que la République démocratique du Congo pourrait bénéficier de cela. Et ensuite, c'est un rayonnement de notre pays. L'organisation d'une conférence internationale, le pays se voit entouré de tous les États du monde. Et à cela, nous allons refléter l'image interne de notre pays, n'est-ce pas? Donc, en organisant cette conférence, on allait bénéficier beaucoup de choses. Merci. On allait améliorer l'image diplomatique de notre pays.
Merci, on vous a compris.
On m'a dit. Oui.
On vous a compris, professeur, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Gérard Ntumba, qu'est-ce que vous répondez à Fifi depuis Bukavu au sud Kivu, qui pense que la priorité devrait d'abord être la réorganisation du pays, parce que celui-ci vit dans la misère et l'insécurité totale, que les autorités pensent un peu plus au peuple plutôt qu'à vouloir paraître aux yeux du monde?
Ok, tout à fait. Je vais répondre très rapidement en faisant un clin d'œil au sénateur qui pensait tout à l'heure que l'opposition, qui disait tout à l'heure que l'opposition avait le même refrain souvent, mais je crois qu'il aura entendu les réactions de tous ses auditeurs et le sénateur ne va pas dire que tous ses auditeurs sont membres de l'opposition. Donc, en fait, il y a quelque chose qu'il faut retenir de cette histoire. Nous n'étions pas préparés à organiser ce sommet, hein, et dans le langage diplomatique, c'est comme quand les fonctionnaires du FMI ou de la Banque mondiale viennent ici, après la presse reprend que voilà, le FMI, le Fonds monétaire a dit qu'ils étaient satisfaits. Bon, quand, diplomatiquement, quand on passe comme ça la main, c'est-à-dire, monsieur, circulez, hein, on viendra voir en 2012 ce qu'on pourra faire avec vous. C'est-à-dire, tout simplement, que pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de le faire. OK.
Merci beaucoup. Jean-Claude Mokeni, qu'est-ce que vous répondez à Pascal depuis Bukavu au sud Kivu, qui remarque que ces derniers temps, la RDC enregistre beaucoup d'échecs dans presque tous les domaines, en sport tout comme en diplomatie. Cela devrait interpeller le gouvernement, conclut-il.
Oui, ben écoutez, je pense que
votre correspondant qui a recueilli les avis des auditeurs, n'a pas tout à fait tort. Il faut se dire que le Congo a hérité d'une situation qui a fait que nous n'avions plus d'infrastructure au niveau sportif.
On est à la fin de l'émission.
Oui, je vais être très très bref. C'est juste pour vous dire que tous les mots ne sont pas au gouvernement actuel, ne sont pas au président de la République et à la majorité AMP qui est en train de diriger le gouvernement.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement mettre fin à toute cette série d'échecs?
Écoutez, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui présents dans le Concert des Nations. J'ai entendu le professeur Labanalassaï parler de non-paiement des cotisations dans des organisations internationales. Nous avons hérité malheureusement de ce fruit-là, malgré les préoccupations de notre intérieur du pays. Nous avions payé l'OIF et c'est pas tout, il y a d'autres organisations internationales.
On est obligé de vous couper. C'est par vos propos donc que nous mettons un terme à cette émission. La réalisation était assurée ce soir par Jean-Claude Toumba-Kamanga. La mise en onde par Héritier Sidia Kala. Merci à toute l'équipe des Dialogues en Congolais qui vous l'a préparé. Sikim Poutou et Guy Maté. Merci à nos invités de ce soir. Au nom de toute cette équipe, je vous dis bonsoir chez vous sur Radio Capi.